Jean-François Caron, maire de Lossonne-Goël.
Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient mineurs. J'ai eu l'occasion de descendre à maintes reprises dans une mine à 1000 mètres de profondeur. C'est assez impressionnant de voir comment extraire le charbon.
Jean-François Caron, on ne vous attend peut-être pas sur le terrain du développement durable. Vous êtes maire de Lossonne-Goël, fleuron de l'industrie minière de façon historique. Est-ce que l'on a tort ?
Oui, on a tort parce que l'activité minière qui est arrêtée ici depuis 20 ans, c'est le prototype d'une activité non durable. C'est-à-dire qu'on exploite une ressource fossile, du charbon, qui est génératrice d'énormément de gaz à effet de serre, de CO2. Et cette exploitation a créé de la richesse, mais la richesse a été exportée du territoire, elle a servi beaucoup les capitaux des mines. Et aujourd'hui, moi je suis maire d'une commune où on doit gérer le fait que le sol de la commune a baissé de 15 mètres à cause des affaissements miniers et donc on a nos réseaux d'eau fracturés. On doit gérer le fait que notre eau atteint 100 mg de nitrate et a une multiple pollution à cause de l'activité industrielle. On doit gérer le fait qu'on s'est trouvé avec 250 000 emplois perdus et donc on a un chômage important. Et donc, d'une manière générale, la non-durabilité ici, ça crève l'écran.
Valérie Caron, experte en développement, sport et santé.
D'abord, je voudrais préciser que justement, il y a une vraie culture minière. Donc déjà, la première chose, c'est de préserver ça au niveau de la population, de faire en sorte que l'histoire persiste et que la vie culturelle soit toujours active. Ensuite, c'est une gestion de crise. On essaie de gérer les questions de l'habitat, remettre de l'habitat digne pour les populations, remettre des activités économiques. Ça aussi, c'est l'urgence de gérer au niveau social cette fin d'exploitation qui est absolument destructrice au niveau social. Et puis, une fois que ces questions d'urgence sont gérées, on passe à finalement une gestion de crise peut-être un peu plus intelligente. Depuis 10 ans, en fait, on essaie de faire en sorte que cette crise nous fasse nous pencher peut-être un peu plus sur le fait d'avoir fait éventuellement des erreurs dans l'histoire, d'avoir eu cette activité minière qui était vraiment un exemple de développement non durable, et comment faire aujourd'hui pour qu'on change complètement ça, on tourne la page et qu'on soit complètement vertueux au niveau du développement durable. Donc on innove, on essaie de faire des choses sur tous les champs du développement durable et en impliquant énormément les populations.
Et c'est pour ça que le projet de la ville, c'est de dire justement, pour rebondir et créer un après-charbon, un nouveau modèle de développement, tirer les leçons du passé, c'est d'aller vers la durabilité, d'avoir un développement plus humain et plus respectueux de l'environnement.
Développement durable, c'est une nécessité économique.
Oui, mon entrée dans le développement durable, bien sûr, je suis un écolo passionné des questions d'environnement, mais c'est le modèle de développement qui impacte sur les hommes et qui impacte sur l'environnement, qui est prédateur. Bon, et donc, on ne peut pas, je pense, traiter correctement la place de l'homme et la place de la nature dans le 21e siècle si on ne va pas toucher au cœur du modèle. Et le modèle, il est quand même énormément basé sur de l'économique. Donc il nous faut de l'emploi, il nous faut de l'activité, sinon on ne peut pas vivre. Et il faut que cet emploi, cette activité soit beaucoup plus vertueux qu'il ne l'était finalement dans le 20e siècle, qui est un peu le siècle de tous les excès de ce point de vue-là.
On avait des taux de nitrate très importants. Qui dit nitrate dit probablement d'autres polluants également présent. Ça veut dire du coup renouveler cette eau qui a été polluée par des centaines d'années d'exploitation minière, agricole, mais également par un habitat dense, en évitant d'imperméabiliser les surfaces de manière à ce que l'eau de pluie puisse s'infiltrer et du coup recharger les nappes, et puis peut-être utiliser de manière plus intelligente cette eau du robinet, notamment la remplaçant par de l'eau de pluie pour tout ce qui ne nécessite pas un usage de boisson ou un usage alimentaire. Donc tous nos équipements publics aujourd'hui sont équipés en récupérateurs d'eau de pluie, et tout ce qui sert au rinçage des toilettes, au nettoyage, à l'arrosage des plantes, au nettoyage des voiries, se fait avec une eau qui ne sort pas de la station d'épuration.
Et donc, par exemple, développer des énergies renouvelables avec une centrale solaire, de la recherche sur les éco-matériaux, matériaux intégralement recyclés, investir dans le vivre ensemble et le lien social dans la vie de la commune plutôt que dans le clinquant ou plutôt que dans les grands équipements démesurés, c'est une façon de privilégier une certaine approche du développement.
Pierre Radan, expert en politique énergétique face au changement climatique.
Pierre Radan, est-ce que l'eau peut polliniser?
Oh oui, parce que le cœur de la capacité de nos sociétés à décider quelque chose, c'est tout simplement l'adhésion des gens. Vous savez, les politiques publiques, c'est très simple, elles marchent si les gens les aiment. Et donc, nos sociétés, angoissées par l'ensemble des problèmes que l'on a, affaiblissent sans cesse leur processus démocratique. Or, quand on a des expériences, et c'est bien évidemment le cas sur l'os, quand on est dans le cas comme sur l'os, où on a une capacité de construire une capacité d'adhésion et de faire que cette adhésion fait que les projets se réalisent, que les gens ont la satisfaction de la réalisation de ces projets, vous voyez que vous êtes là dans la contre-offensive, vous n'êtes plus dans la prostration, vous n'êtes plus dans l'échec, vous êtes dans le départ. Et par rapport à l'ensemble des problèmes du monde, c'est bien évidemment ça qu'il nous faut.
Vous voyez ça d'un bon œil, vous qui y vivez ?
Oui, oui, bien sûr, oui. Et puis bon, les gens se motivent, les politiques, enfin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau du développement durable, les choses comme ça, c'est quand même très très intéressant, oui.
Vous avez le milieu du terril qui habituellement, du fait du schiste, est un milieu extrêmement sec, qui va accueillir des plantes qui sont plutôt des plantes dunaires. Et puis la présence d'un bassin de décantation où étaient versées les eaux d'exor des galeries et qui du coup est une zone aquatique. La confrontation des deux milieux est du coup très très riche au niveau de la biodiversité. Et pour ce qui concerne la zone aquatique, l'intérêt c'est surtout au niveau des amphibiens. Les trois tritons qui sont présents au niveau de la région sont présents sur un tout petit espace qui fait quelques centaines de mètres carrés, quoi. Les crapauds calamites, etc. Donc c'est vraiment très riche de ce point de vue-là.
La Première Guerre mondiale, les mines, c'est l'éternel recommencement à l'os. C'est un tempérament d'être capable de redémarrer.
Oui, je crois qu'il y a un peu une dimension du phénix. On n'est pas dans des territoires en long fleuve tranquille. On a été totalement bouleversé puisque la commune intégralement rasée en 14. 7 puits de mines sur notre commune qui ont tous fermé. Donc les mines, en arrivant par exemple, nous ont donné les plus hautes terrils d'Europe, des petites montagnes de 150 mètres de haut, exactement la pyramide de Khéops en taille. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vivrait 100 ans ne reconnaîtrait absolument pas la commune, même physiquement, elle a changé. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu creusé, il y a une dimension qui est peut-être plus propice à l'innovation, au renouvellement, que dans des endroits où finalement on est sur une stabilité depuis des siècles. Alors c'est quelquefois un peu compliqué à vivre, mais en même temps, du coup, ça donne énormément d'énergie positive.
On a par exemple au moment de l'automne toutes les migrations qui peuvent être observées donc, au niveau des oiseaux. Au mois de mai, si vous vous promenez sur les terrils, ben, vous entendez des bruits de mobilettes. Alors ce ne sont pas des mobilettes, c'est le crapaud calamite qui chante ses amours.
Michel Rocard, ancien Premier ministre, ambassadeur de France pour l'Arctique et l'Antarctique.
C'est très important que toutes nos villes s'habituent à l'idée qu'on change de monde, qu'on change de modèle de consommation, qu'il faut qu'on vive, on consomme moins d'énergie, etc. Mais je suis venu, pas pour pérorer, pour regarder, pour comprendre.
On est de plus en plus fiers d'appartenir au bassin minier. L'apothéose, ça sera le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité, hein, qui devrait intervenir, je l'espère, en 2011, où en fait on sera classé au patrimoine mondial de l'humanité pour notre aspect culturel évolutif, c'est-à-dire effectivement ce système de reconversion, la façon dont on a su préserver notre histoire et où on s'est tourné vers un avenir un peu plus vertueux.
Les gens, lorsqu'ils viennent ici, notamment les Parisiens, sont surpris de la région, de la clarté, de la lumière et puis des choses qui sont très belles dans la région, quoi. Les paysages, c'est verdoyant, c'est enrichissant. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très belles.
Lausanne-Goëlle, une reconversion durable qui devrait s'étendre au-delà des limites de la commune.